Vous écoutez
RMC.
Lundi 8 juin,
l'info sur RMC.
Il est 8h, presque une minute. C'est Céline Kallmann qui est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Certaines armes utilisées par les forces de l'ordre sont dangereuses et doivent être retirées. C'est ce que préconise ce matin le défenseur des droits qui rend son rapport annuel explication dès le début de ce journal. Le corps de George Floyd est arrivé à Houston, Texas, la ville où il a grandi. Ses obsèques sont prévues demain. Le candidat démocrate Joe Biden va rencontrer sa famille ce soir. Et puis un chantier titanesque, à partir d'aujourd'hui, le démontage de l'échafaudage de Notre-Dame, endommagé lors de l'incendie, 200 tonnes de tubes métalliques à évacuer. Bienvenue à tous sur RMC. La police en France doit-elle changer sa manière de travailler? Doit-elle se débarrasser de certaines armes utilisées lors de manifestations? Eh bien, c'est ce que pense le défenseur des droits Jacques Toubon, qui publie son rapport annuel aujourd'hui, alors que le monde est secoué par des manifestations contre les violences policières. Bonjour Benoît Ballet.
Bonjour.
Jacques Toubon le dit clairement, certaines pratiques de la police ou de la gendarmerie sont illégales.
Oui, à commencer par la technique dite de l'encagement ou de la nasse, une technique utilisée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pour empêcher des individus de sortir d'un périmètre donné, une privation de liberté sans cadre juridique, écrit Jacques Toubon. Autre manquement à la déontologie, le transport de personnes d'un lieu à un autre pour procéder à un contrôle d'identité déporté, selon les mots du défenseur des droits, qui se fait la plupart du temps sans que l'autorité judiciaire en soit informée. Le port d'un casque de moto intégral, casque qui ne laisse qu'une petite partie du visage visible, tout comme le port des cagoules par les forces de l'ordre, sont des pratiques également dénoncées par Jacques Toubon. Cela empêche l'identification des agents en dehors, là aussi, de tout cadre réglementaire. Enfin, Jacques Toubon recommande à nouveau le retrait des grenades de désencerclement et du lanceur de balles de défense de l'arsenal des forces de l'ordre.
Benoît, est-ce que ce rapport peut changer les choses?
On peut l'espérer, mais le rapport de Jacques Toubon incite plus au pessimisme qu'autre chose. Le défenseur des droits observe que depuis le début de son mandat, il y a 5 ans, ses recommandations sont restées lettres mortes. Un exemple, Céline, sur 36 dossiers qui ont fait l'objet de demandes de poursuites disciplinaires de la part de Jacques Toubon, aucune de ces demandes n'a été suivie d'effet.
Merci Benoît. Et c'est dans ce contexte que l'IGPN, la police des polices, publie son rapport annuel ce matin. 19 personnes sont décédées lors d'une intervention de police en 2019 contre 17 un an plus tôt. Sur les 1460 enquêtes judiciaires confiées l'année dernière, 868 portent sur des violences volontaires. C'est un chiffre qui a bondi de 41% par rapport à 2018. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, a réagi ce matin sur RMC. Pour lui, les autorités ont tout intérêt à être totalement transparents.
Ça montre bien qu'il y a une instance de contrôle. Ça montre bien qu'il y a des contre-pouvoirs au sein même de la police.
Mais le contrôle existe. Mais est-ce que les sanctions sont réelles?
Moi, je crois qu'elles sont réelles. Je ne crois pas que l'IGPN soit particulièrement laxiste. Simplement, peut-être qu'on n'en fait pas assez la publicité. Donc, moi, oui, je pense que ça va dans le bon sens d'apporter un peu plus de transparence sur ces questions-là. On a quand même intérêt à faire toute la transparence sur ce type de questions, sur le nombre de condamnations, sur la sévérité de ces sanctions. Parce que lorsqu'il y a des actes très graves, ils sont aussi sanctionnés de manière très dure et ça peut aller jusqu'à la vocation.
Sur ces questions et d'autres, Éric Ciotti sera mon invité tout à l'heure à 8h30, spécialiste de ces questions aux Républicains. Et demain, je vous annonce la présence de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui sera mon invité sur RMC et BFM TV.
SOS Racisme appelle à une nouvelle manifestation demain à Paris à 18h, place de la République, contre les violences policières, contre le racisme. Jour des obsèques de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier blanc il y a 2 semaines et dont la mort a provoqué une onde de choc mondiale. Jean-Bernard Cadien, un nouvel hommage est prévu ce soir à Houston, au Texas.
Le corps de George Floyd est déjà arrivé ici à Houston, la ville où il a passé la plupart de sa vie, la ville où il a grandi dans un quartier extrêmement pauvre, la ville où il a joué au basket, la ville aussi où quand il était lycéen, il avait dit un jour « Je voudrais faire quelque chose de ma vie, je voudrais changer le monde ». On attend beaucoup de monde pour ces obsèques qui devraient se dérouler en 2 temps. D'abord, ce lundi, le cercueil sera exposé ici, dans cette église, au public, et puis mardi, les obsèques proprement dites dans l'intimité familiale, puis il sera inhumé dans le cimetière où repose sa mère qui est décédée il y a 2 ans. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, sera à Houston ce lundi. Il va rencontrer la famille ce lundi. Il va enregistrer un message vidéo pour les obsèques, mais il n'assistera pas aux obsèques. Il dit qu'il ne veut pas déranger la famille avec ses gardes du corps.
Et on a appris la nuit dernière que la municipalité de Minneapolis avait décidé de démanteler sa police. Un nouveau modèle de sécurité publique va être mis en place. RMC, 8h05, l'épidémie est sous contrôle. Le nombre de victimes de Covid-19 continue de diminuer en France. 13 morts ces dernières 24 heures à l'hôpital. Mais pour l'instant, toujours pas d'allègement des conditions sanitaires à l'école. Totalement illogique pour de nombreux parents dont les enfants ont école parfois un ou deux jours seulement par semaine. Le conseil scientifique et le gouvernement sont pourtant d'accord. Il faut alléger les mesures. C'est la volonté aussi de cette prof de sport interrogée par Nicolas Repère.
Professeur de PS dans la Manche, Fanny Le Cam retrouve aujourd'hui pour la première fois ses élèves avec un programme très restreint.
On a pu mettre en place des activités telles que la course d'orientation et puis effectivement on va pouvoir travailler sur tout ce qui est renforcement musculaire en musique.
Des activités sportives qui ne nécessitent pas de contact entre les élèves, mais l'enseignante plaide pour un allègement des mesures sanitaires.
Si effectivement on peut faire un petit peu plus de sport collectif, du football à l'extérieur, de handball également, du basket, ce serait vraiment bienvenu parce que les élèves apprécient être au sein d'une équipe, tout simplement le vivre ensemble.
Cet assouplissement ne permettrait pas d'accueillir plus d'élèves, estime Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale.
Comme l'essentiel de la difficulté tient au groupe limité à 15 et aux 4 mètres carrés dans les espaces salles de classe, c'est vraiment ce problème-là qui doit être traité un jour ou l'autre si on estime que c'est nécessaire.
Pour lui, il est encore temps de changer ses règles d'ici la fin de l'année scolaire.
D'aujourd'hui, il est à nouveau possible de se rendre au Royaume-Uni, mais il y a des conditions très strictes. Là aussi, respecter un isolement de 14 jours et préciser son lieu de résidence durant toute cette période. Des contraintes insupportables pour ces voyageurs rencontrés par Thomas Chupin, garde du Nord.
L'une des conséquences très concrètes de cette mesure, c'est la séparation d'un couple franco-anglais. Devant l'Eurostar à Paris hier, Clarisse laissait partir Brandon en urgence pour éviter la quarantaine.
Oh, je déteste ça. Je pense que ça aurait dû être fait il y a 2 mois. Mais oui, je dois partir plus vite que prévu.
Moi, j'ai annulé mon voyage pour pas avoir à rester 14 jours enfermée.
Isabelle, elle vit en Angleterre depuis 10 ans. Elle ne reviendra pas en France avant fin juin. Trop de contraintes à son retour à Londres.
On doit donner une adresse quand on rentre. Il y aura des contrôles à cette adresse, assez fréquents. On risque 1000 pounds d'amende si on ne reste pas à cette adresse. Ben, c'est un peu plus de 1000 euros.
Et puis, il y a des conséquences pour les travailleurs qui font des allers-retours Paris, Londres, très souvent. Fabrice, par exemple.
Avant la crise du Covid-19, je venais 2 jours toutes les 2 semaines à Paris. Mais là, ça me manque. Moi, j'aimerais bien retourner voir les équipes à Paris.
Patron d'une start-up spécialiste de la création de logiciels, Fabrice Bernard a bien conscience que c'est un nouveau coup porté à son pays d'adoption.
Déjà, le Brexit, ça a quand même mis un coup sur la tête à beaucoup de gens. Il y a beaucoup moins de Français qui viennent s'installer à Londres. Là, avec cette deuxième crise par-dessus, ça va vraiment pas aider.
Ouais. Et Fabrice est aussi un jeune papa. Il espérait présenter son fils Louis, âgé de 2 mois, à ses parents. Il lui faudra encore attendre.
Le confinement, eh bien, c'est l'ami du petit déjeuner, Jean-Jacques. Un Français sur deux dit avoir mangé plus équilibré pendant cette période. C'est le résultat d'une étude Opinionway pour Lactel, qu'RMC vous dévoile ce matin. Mao Becker-Granier.
Pendant le confinement, Aya, 6 ans, a passé beaucoup plus de temps à manger ses tartines et ses céréales le matin.
Avant le confinement, on se dépêchait pour après faire les activités. Et là, on mange un petit peu doucement.
La maman d'Aya, Selma, confirme les petits déjeuners ont été plus fastueux, mais aussi de meilleure qualité.
Moins d'aliments transformés, j'ai l'impression. On ouvrait moins de boîtes aussi. Beaucoup plus qualitatif et plus sain. Mais bon, après, comme on prend le temps de manger, on mangeait peut-être un peu plus que d'habitude.
Et si les parents veulent que leurs enfants continuent d'accorder de l'importance au premier repas de la journée, il va falloir faire quelques sacrifices pour que ces bonnes habitudes restent. Albert Moukébert est docteur en neurosciences.
Essayer de mettre en place des choses qui nous permettent de prendre ce temps le matin. Par exemple, reprendre le boulot un peu plus tard. On essaye de trouver une sorte de modèle intermédiaire entre ce qu'on faisait avant et qui était pas très bon pour les petits déjeuners, par exemple, des enfants, et ce qu'on a fait pendant le confinement, qui était une extrême qu'on peut pas tenir dans la durée, et voir si on peut trouver quelque chose qui entre les deux.
Pendant le confinement, un enfant sur deux a pris plus souvent que d'habitude son petit déjeuner.
40 000 pièces métalliques vont être évacuées à partir d'aujourd'hui. Démontage à haut risque de l'échafaudage de Notre-Dame de Paris qui se trouve à plus de 40 mètres de haut. Des filets ont été tendus sur 3 niveaux. L'échafaudage avait commencé à être monté en 2018 pour la restauration de la flèche. Capucine Bouillot.
Un échafaudage de 40 000 pièces de métal, dont la moitié se situe à plus de 40 mètres de haut pour un poids total de 200 tonnes. Une opération très délicate, réalisée par 10 cordistes répartis en équipes de 5 pour pouvoir se relayer. Ils partiront d'un deuxième échafaudage monté spécialement pour cette opération un peu plus en hauteur. Encordés, ils pourront donc descendre au plus près des parties calcinées de la structure et découper avec de puissantes scies les tubes métalliques fondus les uns sur les autres à cause de l'incendie. Les éléments extraits de l'échafaudage seront ensuite évacués par une grue de 80 mètres. C'est la troisième et dernière phase de sécurisation du site, déterminante pour entamer ensuite la restauration à proprement parler de Notre-Dame de Paris.
Et puis une info rugby, Jefferson Poirot, pilier gauche des Bleus, annonce sa retraite internationale à seulement 27 ans. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles veut désormais privilégier sa vie privée.
8h11 minutes. Merci beaucoup, Céline. Tout à l'heure, Eric Ciotti sera là. 8h30, 9h. Je vais beaucoup le parler, évidemment. Police, les accusations de violence policière, les accusations de racisme dans la police. Que dit-il? Qu'en pense-t-il? Que propose-t-il? C'est un spécialiste de ces questions. Il est aussi le rapporteur. Et oui, c'est très intéressant. Le rapporteur général de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Nous en parlerons tout à l'heure. Et je lui demanderait s'il faut assouplir le déconfinement. Qu'en pense-t-il? Cette question, je vais la poser dans un instant au professeur Antoine Flao, qui est médecin épidémiologiste à l'université de Genève. Antoine Flao, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous encore une fois ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver régulièrement sur l'antenne d'RMC et sur le canal 24, la chaîne 24, RMC Découverte. Alors, question simple, faut-il alléger les protocoles sanitaires dans notre pays ?
Alors, il va falloir les alléger, c'est certain, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt. On est un petit peu dans ce sas de déconfinement. Je dirais tant qu'en France, il y a plus de 100 cas nouveau chaque jour, ça me paraît un peu prématuré de trop alléger, en tout cas de ne pas garder un certain nombre de précautions pour éviter justement qu'on ait ces clusters qui se multiplient. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 nouveaux cas par jour en France et c'est quand même finalement un risque, y compris de mortalité, qui reste encore assez élevé.
Professeur Flao, vous dites 600 nouveaux cas par jour en France ?
Oui. La France rapporte à l'ICDC, aux autorités européennes, oui, plus de 600 cas chaque jour nouveaux qui, pour un certain, oui, nombre, vont être hospitalisés et pour un certain nombre, malheureusement, risquent, oui, d'avoir des complications mortelles.
Voilà, et certains sont toujours en réanimation à l'hôpital depuis plusieurs semaines maintenant. On le sait, la France a recensé 13 décès dans les hôpitaux en lien avec l'épidémie sur les dernières 24 heures. L'épidémie est toujours là, elle circule toujours, elle circule à bas bruit, comme on dit, mais elle circule toujours.
Oui, alors on est en pleine décrue et cette décrue est très prononcée, donc c'est bien normal qu'on ait commencé ce déconfinement. En Suisse, on a entre 10 et 20 cas par jour. Si on rapporte ça à la population française, on peut multiplier par 8 à peu près et on voit qu'on est quand même au-dessous des chiffres français. Donc il faut encore qu'en France, il y a, je dirais, encore une décrue qui se prononce, un effort encore, si je puis dire, pour faire diminuer encore ce nombre de cas. Quand on arrivera au-dessous de ce seuil des 100 nouveaux cas par jour en France, je pense que là, on pourra en effet très largement alléger l'ensemble des précautions. Cela dit, on peut aussi avoir une stratégie un peu de réduction de risque, c'est-à-dire qu'on peut conseiller aux gens qui ont vraiment envie, je ne sais pas, de manifester dans la rue, par exemple, de prendre des précautions, d'utiliser des masques, comme on l'a vu chez beaucoup de manifestants, de respecter le plus possible des distances sociales, de 2 mètres, tout cela peut contribuer à réduire profondément le risque. C'est pareil quand on prend un bus bondé aujourd'hui, si on met un masque et qu'on n'a pas un trajet trop long, oui, on diminue beaucoup le risque également.
Et professeur Antoine Flao, et les écoles? Les écoles, les collèges, les lycées? Que doit-on faire? Est-ce qu'il faut alléger le protocole sanitaire?
Alors, les écoles, il faut déjà distinguer les écoles primaires, celles qui concernent les tout-petits-enfants, on va dire, les crèches aussi, et les écoles qui concernent les jeunes adultes, au-delà de 15 ans, on va dire. Oui. Je pense qu'au-delà de 15 ans, il n'y a pas une grande priorité à les ouvrir. Ça va être peut-être des lieux de transmission, comme on l'a vu déjà dans le lycée de l'Oise en France, hein, déjà. Oui. Pour les écoles primaires, chez les tout-petits-enfants, on sait que la transmission est très minime, on sait que le risque pour les enfants est très minime aussi, donc en dehors de certains cas particuliers, et puis je ne parle pas des enseignants qui peuvent parfois être à risque ou vulnérables, en effet, on peut très légitimement vouloir lever ces derniers freins que sont ces mesures barrières de distance sociale qui sont franchement, chez les tout-petits-enfants, très illusoires.
Oui, alors l'OMS vous enjoint de vous préparer à un retour éventuel de l'épidémie vers la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. C'est, vous confirmez, professeur ?
Alors, l'OMS, comme nous ne pouvons pas prédire l'avenir, bien sûr. Ce que l'on peut regarder, c'est le passé. Toutes les pandémies, de grippe en particulier, ont eu plusieurs vagues, en particulier des vagues qui revenaient justement à l'automne, fin octobre ou début novembre. Donc, c'est même la pandémie de 2009, mais la grippe de Hong Kong en 1969 aussi. Donc, c'est tout à fait possible qu'on ait en effet un retour de ce virus qui semble avoir une composante hivernale à la saison hivernale prochaine, parce qu'il semble aussi que la proportion de la population immunisée soit encore très faible en Europe.
Merci beaucoup, professeur Flau. Merci d'être avec nous.
8h16,
ça va mieux effectivement en France, mais attention, hein, on vient d'en parler avec le professeur Flau. Les États-Unis en sont à plus de 110 000 morts, Quentin Vinet.
C'est ça, environ 700 morts en l'espace de 24 heures aux États-Unis, quasiment 2 millions de cas. Là-bas aussi, les signaux sont positifs. Les États-Unis ont enregistré autour de 3 000 morts au plus fort de la crise. Vous voyez que c'est beaucoup moins en ce moment. Donald Trump assure que ça y est, hein, la crise est largement surmontée. C'est ce que dit Trump, mais le personnel de santé s'inquiète aux États-Unis des manifestations depuis la mort de George Floyd il y a maintenant 2 semaines.
Inquiétude aussi au Royaume-Uni.
Oui, le gouvernement appelle carrément les Anglais à prendre leurs précautions s'ils défilent dans la rue. Le risque de manifestation est sans doute accru. Le risque de contamination est sans doute accru par les manifestations. Les voyageurs étrangers doivent désormais observer une quarantaine de 14 jours pour se rendre au Royaume-Uni.
La situation ne s'arrange pas au Brésil.
Voilà, par contre, là-bas, ça ne s'arrange pas. Plus de 37 000 morts, c'est le dernier bilan. Et les autorités ont carrément retiré, dans le week-end, les statistiques sur l'épidémie de coronavirus, des statistiques qui étaient disponibles sur Internet, mais qui ne le sont plus maintenant.
Il est 8h17, Florent est là, avec nous. Bonjour Florent.
Oui, bonjour Jean-Jacques, oui, bonjour toute l'équipe.
Bonjour Florent, vous êtes habitué, vous êtes à la radio ou à la télé le matin, Florent ?
À la radio.
À la radio tous les matins. Un habitué d'RMC, nouvel auditeur ou ça fait longtemps ?
Non, ça fait longtemps, ça fait longtemps même.
Bon, vous êtes à Lyon, la métropole de Lyon, vous êtes chocolatier. Et les journaux dans le Sud-Est, vous avez raison, il n'y a plus de presse papier depuis maintenant 3 semaines.
Depuis le 12 mai, me semble-t-il.
Oui, oui.
Et alors, il y a déjà un premier phénomène, c'est qu'on n'en parle pas du tout.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, pas suffisamment, mais il y a tellement d'actualités aujourd'hui. Mais vous avez raison.
Il y a l'actualité, je pense quand même, faut dire les choses. Si Paris était touché, on en parlerait beaucoup plus. C'est une évidence.
Ça, c'est pas faux. J'en vous l'accorde, Florent.
Oui. Parce que depuis 3 semaines, on n'a pas le Figaro, on n'a pas l'IB, on n'a pas le JDD, on n'a pas la presse, toute la presse nationale. Alors on l'a sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais c'est complètement différent du... Enfin, moi j'aime le papier.
Oui, moi aussi.
Et je voudrais savoir, alors apparemment c'est un distributeur qui est en grève suite à un peut-être futur plan social.
Oui.
Mais je suis quand même étonné, moi, que pendant 3 semaines, un pays comme la France, alors c'est pas tout le Sud-Est, mais allez, admettons 15 ou 20% des habitants n'ont pas accès à la presse papier, mis à part la presse régionale, et que même les journaux n'en parlent pas. Ça veut dire que même si on arrive à se procurer le JDD, par exemple, il n'y a pas un article, il n'y a rien. Je suis très étonné.
Ah ben, Quentin Vinet.
Alors, ça remonte au 15 mai dernier, quand le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de 2 filiales de Presstalis. Presstalis qui est endetté, distributeur de journaux. 2 filiales, donc, chargées de répartir les journaux et les magazines. Donc, ça remonte au 15 mai dernier.
Bien, merci beaucoup, Florent. Merci d'avoir appelé et d'avoir rappelé cette information. Il est 8h19, Mathieu.
À suivre, Bercy. Bercy qui ne veut pas baisser les taux de TVA. On en parlait tout à l'heure, baisser les taux de TVA pour relancer l'économie. Mais pourquoi Bercy ne veut pas ? Frédéric Simotel va tout nous expliquer dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct. Bien, avant de retrouver Frédéric Simotel, on va parler de la TVA. Mais pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas la TVA en France pour relancer la consommation ?
Oui,
c'est une très très bonne idée. L'Allemagne le fait. On se demande pourquoi la France ne veut pas le faire. On va en parler avec Frédéric Simotel dans un instant. Je vous offre, vous le savez, je voudrais vous rappeler notre jeu pour vous permettre de gagner quoi? 500 euros tous les mois pendant un an, ça fait 6000 euros. C'est pas compliqué et c'est beaucoup. RMC, c'est la radio. RMC Découverte, la télé, la chaîne 24, vous le savez. Vous répondez à la question que je vous pose. Alors écoutez bien parce que c'est pas très compliqué. Nous avons dû respecter, un, les gestes barrières ou deux, les gestes fourrières. Vous avez la bonne réponse, oui. Alors envoyez un pour les gestes barrières et deux pour les gestes fourrières par SMS au 7 32 16. Vous n'hésitez pas. Et le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort parmi les auteurs de bonnes réponses. Il est 8h25. Merci d'être là, Frédéric Simotel. Donc, bonjour Frédéric.
Bonjour Jean.
Alors, l'Allemagne, pour relancer la consommation, a décidé de baisser la TVA, ces deux taux de TVA, et la France dit non. Le gouvernement a rejeté cette mesure. Pourtant, on imagine qu'une baisse de la TVA aurait une répercussion sur la consommation. Baisse des prix, donc consommation accélérée, ouais, augmentée. Exactement. C'est ça.
Mais Bercy n'y croit pas forcément. Alors justement, ils évoquent que par le passé, une baisse de la TVA s'était montrée, avait plutôt permis aux commerçants de reconstituer leur marge plutôt que d'en faire bénéficier le consommateur. Ils prennent, par exemple,
les restaurateurs.
Ils font monter en 2009 avec les restaurateurs. C'était ça. Alors après, on pourrait leur répondre, on pourrait leur dire, attendez, on est en crise. C'est pas très grave que les entreprises fassent des marges parce que du coup, si elles font des marges, c'est qu'elles vont créer de l'emploi. Donc ça pourrait
créer de la richesse. Créer de l'emploi.
Alors l'autre raison invoquée par Bercy, c'est de dire qu'en France, le taux d'épargne des ménages en France est beaucoup plus élevé qu'en Allemagne.
C'est vrai.
Donc en Allemagne, il faut les pousser davantage à consommer. Nous, rendez-vous compte, le confinement en France a approché, donc l'épargne forcée, entre guillemets, due au confinement, c'est 100 milliards d'euros qui sont restés comme ça.
Et les Français ont épargné 100 milliards d'euros.
100 milliards d'euros.
C'est ce qu'il faut dire, quoi, pendant le confinement.
Exactement.
Les Français ont épargné 100 milliards d'euros, oui, mais c'est bien. Mais si on ne les encourage pas à consommer, ils ne vont jamais sortir cette épargne.
Eh bien, c'est ça. Alors, c'est ça. Et Bercy estime que là, on l'a vu en ce début de sortie de confinement, les Français sont encore un peu trop prudents dans leur consommation. Ils ne vont pas vers les bons types de biens. Et donc, si on veut aider, ce n'est pas une baisse de la TVA globale.
Vers les bons titres de biens, c'est quoi? Type de biens.
Mais il faudrait être beaucoup plus ciblé, un peu comme on l'a fait pour la voiture, en disant, tiens, on va mettre en marche des mesures au développement durable, politique, écologique, pour pousser les gens. Donc, il vaut mieux avoir des mesures ciblées qu'une baisse globale de la TVA.
Oui, enfin, et puis une baisse de la TVA, c'est moins d'argent dans les caisses de l'État.
Eh bien, oui, c'est un peu ça. Parce
soyons
que pour
clairs,
nous,
hein.
Par rapport à l'Allemagne, la TVA, c'est 30% de leur recette fiscale. Nous, c'est 45%. Donc, vous imaginez si on baisse tout ça. Oui. Donc, en Allemagne, baisser les taux, ils vont perdre 20 milliards d'euros. En France, on perdrait beaucoup plus. Et puis, Bercy craint autre chose, c'est que notre consommation, si on se met à consommer plus, on va aller davantage vers des produits importés. Et donc, aujourd'hui, 70% de notre consommation, ce sont des produits importés. Donc, ça va bénéficier à ceux qui sont à l'étranger, aux produits que l'on importe. Sachez qu'aujourd'hui,
c'est vrai, ça,
pour 1 euro dépensé, il y a 33 centimes qui sont importés. Donc voilà, ça fait différentes raisons. On va suivre ça.
Bon, après, évidemment, je rappelle qu'en Allemagne, le taux normal de TVA baisse de 19 à 16 % et le taux réduit de 7 à 5 pour 6 mois. Hein, pour 6 mois,
et ça va coûter. C'est pour un délai.
Voilà, une période précise. Il est 8h28, Frédéric Simotel, donc avec nous. Et dans un instant, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, député Les Républicains. Et puis demain, Christophe Castaner, qui sera notre invité exceptionnel de matin. Voilà, merci de nous avoir accompagnés sur RMC et sur RMC Découverte, surtout puisque RMC Découverte, on se sépare. La chaîne 24, on sera là demain ensemble, bien sûr. RMC, vous restez avec nous pour écouter Éric Ciotti ainsi que sur BFM TV. Merci à toutes nos équipes ce matin. Il est 8h28. Anne-Sophie Balbier est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. 1460 enquêtes judiciaires l'an dernier, une hausse de 23,7%, rapport de la police des polices rendu public ce matin. Plus de la moitié de ces enquêtes visent des accusations de violence des forces de l'ordre, c'est en partie l'effet gilet jaune. La police de Minneapolis va être démantelée. Objectif, reconstruire un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population, a déclaré la présidente du conseil municipal sur CNN. Les manifestants contre le racisme et les violences policières se sont encore multipliées ce week-end aux États-Unis et en Europe. Et puis 40 000 pièces d'acier pour un poids total de 200 tonnes. Opération de démontage de l'échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris. La dernière phase est lancée aujourd'hui et va durer tout l'été. Il est 8h30. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Éric Ciotti, bonjour.
Bonjour.
Député Les Républicains des Alpes-Maritimes, je vais vous parler du déconfinement. Vous êtes aussi rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Je vais vous parler déconfinement. Faut-il maintenant assouplir ce déconfinement?
J'ai écouté hier le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.
Oui.
C'est ce qu'il souhaite.
Oui.
Donc on a cet avis scientifique qui aujourd'hui, ces avis scientifiques,
oui,
qui sont à peu près convergents.
Oui.
Donc je crois en effet que le temps est venu d'accélérer le rythme. On voit bien que tous les paramètres s'améliorent. Il faut néanmoins bien sûr rester prudent et vigilant, mais je suis favorable, notamment pour les restaurants, à ce que certaines restrictions soient levées. Et je suis aussi très partisan à ce que l'école retrouve une activité normale, parce que derrière, il y a aussi cette paralysie de l'économie, parce que 22% à peine des élèves sont scolarisés.
Oui.
Ça veut dire que 78% ne le sont pas. Ça veut dire que des parents ont des difficultés aujourd'hui pour occuper leurs enfants, pour transmettre les enseignements. Et puis, c'est un risque de blocage aussi de notre économie.
Et Éric Ciotti, oui, aujourd'hui, vous êtes favorable à ça, mais je me souviens quand même que beaucoup de Républicains étaient contre l'ouverture des écoles aux enfants avant la rentrée de septembre.
J'avais proposé, c'est qu'il y ait une rentrée obligatoire pour tous et partout le 2 juin.
Oui.
On est allé au 11 mai, mais c'était, je dirais, symbolique.
Symbolique,
là, ni obligation pour les élèves, ni obligation pour les enseignants, ni obligation pour les maires. L'école, elle est républicaine, elle doit avoir lieu pour tout et par tous.
Bien, ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen pour permettre notamment la circulation des touristes, vous y êtes favorable. Le 15 juin, probablement le 15 juin, c'est pas encore totalement acté. Est-ce qu'il faut le 15 juin que tout le monde puisse circuler librement en Europe?
Il faut voir par rapport à la situation des pays. Là encore, il faut être pragmatique.
Mais par exemple, l'Italie nous permet d'aller en Italie.
Oui.
Nous ne permettons pas aux Italiens de venir en France.
On a eu un blocage dans mon département. Non, c'est pas logique. Comme ce n'était pas logique au début de la crise que la France laisse ses frontières ouvertes depuis l'Italie. Les Italiens pouvaient venir dans le département des Alpes-Maritimes.
Oui.
Par exemple, l'inverse n'était pas possible. Donc, il faudrait une harmonisation européenne. Et puis, ayons un peu de pragmatisme au cas par cas. S'il y a des pays où le virus continue à se diffuser, il ne faut pas ouvrir.
Alors, faut-il ouvrir les frontières françaises aux Italiens aujourd'hui? Je vous pose franchement la question.
Aujourd'hui, je pense que dans quelques jours, cela devrait pouvoir se faire.
Bien. Faut-il prolonger l'état d'urgence sanitaire?
Non, je ne crois pas. La date est fixée au 10 juillet. Moi, personnellement, je considérais que le 23 juin, c'était 2 mois, une prorogation qu'on a voté à l'Assemblée nationale, cette prorogation. L'état d'urgence sanitaire a commencé le 23 mars. 3 mois, ça me paraissait suffisant. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous devons retrouver un fonctionnement de notre pays, y compris institutionnel, parce que l'état d'urgence sanitaire, ce sont des dispositions qui peuvent conduire à des privations de liberté et qui donnent des pouvoirs exorbitants du droit commun à l'exécutif, notamment au détriment des pouvoirs de contrôle
du Parlement. Pouvoir mieux réprimer les manifestations, disent ceux qui sont opposés, beaucoup de ceux qui sont opposés à la prolongation de l'état d'urgence.
Non, je crois qu'il y a des outils dans le droit commun pour faire respecter à la fois les libertés individuelles et pour lutter contre les violences. Donc cet état d'urgence sanitaire, aujourd'hui, ne me paraît plus opportun au-delà le 10 juillet. Maintenant, la loi est votée, donc on ira jusqu'au 10 juillet. Le renouveler au-delà, ça ne me paraîtrait pas nécessaire.
Bien, le New York Times écrit « Le gouvernement du président Emmanuel Macron a repoussé le coronavirus, empêché les licenciements massifs, soutenu les salaires des chômeurs, évité les pénuries de nourriture et atteint un taux de mortalité inférieur à celui de ses voisins, à l'exception de l'Allemagne. » Est-ce faux ce qu'écrit le New York Times?
Il y a des analyses qui sont différentes.
Oui.
Sur la mortalité, on est, je crois, au 5e ou 6e rang au plan international. au terme du chômage, oui. L'Allemagne a des résultats très nettement supérieurs. Donc, nous verrons bien au début. Moi, ce que je dis aujourd'hui...
Parce que vous êtes rapporteur général de la commission d'enquête parlementaire.
Nous poserons les questions. Alors, moi, j'écoutais encore une fois le président du conseil scientifique qui disait... Il y a une question essentielle, c'est celle du confinement. Est-ce qu'il fallait aller sur le confinement? Et le président du conseil scientifique dit un propos qui me paraît assez pertinent en disant... C'était une mauvaise décision, mais c'était la seule possible parce que nous n'avions pas les éléments matériels pour nous protéger. Les masques, les tests, il cite ce chiffre. Vous faites la comparaison avec l'Allemagne. Oui. 3000 tests en France au début de la crise par semaine, 3000, 50 000 en Allemagne. Voilà, la réalité, elle est là. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette nécessité d'un confinement aussi strict qui a mis notre économie à l'arrêt. Aujourd'hui, les chiffres économiques sont particulièrement préoccupants. On prévoit une baisse de la richesse nationale, une décroissance de l'ordre de 12%. 1 million de chômeurs au mois d'avril. Je ne vois pas là des signes, malheureusement, très, très positifs. Et j'ai l'impression qu'au contraire, ils sont plus lourds que dans d'autres pays comparable, mais cette évaluation naturellement doit se faire avec un peu de recul.
Alors qui sera auditionné?
Nous auditionnerons tous ceux qui peuvent apporter un éclaircissement pour non pas faire un procès de quiconque, mais pour que ça ne se reproduise pas. Moi, mon souci, c'est par exemple si à l'automne ou au l'hiver prochain, on devait avoir une nouvelle vague, c'est qu'on soit mieux armé sur des produits essentiel pour lutter contre la maladie. Je redis, les tests, les masques, les respirateurs, les lits de réanimation, tous les ministres qui depuis...
Tous les ministres, le Premier ministre,
ça me paraît légitime. C'est la présidente de la commission, Mme Bourguignon, qui convoquera. Mais moi, en tant que rapporteur, je demanderai l'audition du Premier ministre, de tous les ministres. Depuis 2005, pourquoi 2005? 2005, c'est la grippe aviaire. Xavier Bertrand était ministre de la Santé. Il a pris des décisions très efficaces. Elles ont été poursuivies par le gouvernement de Nicolas Sarkozy au moment de l'épisode de la grippe H1N1. Rappelez-vous, nous avions à l'époque 1,7 milliard de masques. On avait même reproché au gouvernement d'en faire trop. Depuis, pourquoi on est arrivé en janvier 2020 à 100 000 masques
Premières auditions, complètement démunis. Bon, alors, on a dit, beaucoup d'hommes politiques, de responsables politiques sont auditionnés. Premières auditions quand? Juste une date?
Je l'espère la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Le bureau de la commission se réunit demain et je souhaite que les auditions aient lieu la semaine prochaine.
Durée de l'enquête?
6 mois. La durée constitutionnelle.
Je passe à autre chose. Est-ce que certains policiers et gendarmes sont racistes en France?
Certains. Il peut y avoir des racistes. Il peut y avoir des journalistes racistes. Il peut y avoir des hommes politiques.
Les journalistes racistes, ils sont condamnés. Il peut y avoir.
Mais les policiers aussi. Les policiers,
sont-ils condamnés?
Bien sûr, il y a eu.
Quels sont les chiffres?
Il y a eu des condamnations.
Quels sont les chiffres?
L'année dernière, il y a eu 30 procédures pour racisme. Il y en avait 46 en 2018.
Procédure est une chose. Combien de policiers ou de gendarmes ont été condamnés pour propos racistes?
Je ne sais pas très exactement.
Spécialiste des questions de police et gendarmerie.
Je ne sais pas très exactement sur les condamnations judiciaires. Vous savez, les procédures judiciaires, elles durent plusieurs années.
Il arrive un moment où elles s'arrêtent, les procédures.
L'IGPN a été saisie en 2018 de 46 procédures pour racisme. Oui. C'est un rapport qui est sorti aujourd'hui chez certains de vos confrères aujourd'hui. Et 30 en 2019. Donc ça a d'ailleurs diminué. C'est un fait important. Ensuite, il y a des condamnations. Comme il y a des condamnations pour propos racistes sur toutes les corporations. Donc dire que la police est raciste, aujourd'hui, je le dis, est une contre-vérité qui ne repose que sur une approche idéologique. Bien, et moi, alors, je conteste cette vision et je demande d'ailleurs, parce que j'ai entendu hier M. Mélenchon a demandé à ce que le président de la République s'exprime. Manifestement, M. Macron a écouté M. Mélenchon, puisqu'il y a un propos qui est rapporté par vos confrères où il demande au ministre de l'Intérieur
Qui sera là demain matin à votre place et qui va s'exprimer sur la question.
Moi, je demande aussi au président de la République, comme au ministre de l'Intérieur, de dénoncer ce procès collectif collectif qui est fait à la police. Ne confondons pas des actes individuels qui naturellement sont condamnables, qui doivent être condamnés avec
beaucoup de force. Vous avez vu ces groupes de policiers qui discutent, puis, ces groupes de policiers qui discutent sur les réseaux sociaux.
Et la justice,
est-ce que la justice, oui,
la justice a été saisie.
Est-ce que ces policiers doivent être révoqués, oui ou non?
C'est l'enquête judiciaire qui le dira.
Et si les propos sont avérés, est-ce que les policiers doivent être révoqués?
Mais bien sûr. Mais ça, c'est... Ne faisons pas des procès médiatiques.
Je ne fais pas de procès médiatiques.
On parle d'un groupe. D'abord, ce groupe, il représente environ, si tant est que ces personnes soient toutes membres des forces de l'ordre, on parle de 8000 personnes. Oui. Il y a 150 000 policiers dans notre pays. Oui. Il y a 100 000 gendarmes. Ça fait 250 000 policiers. Il y a des policiers municipaux. On peut rajouter des réservistes. Mais bon... C'est beaucoup, vous avez raison, et j'en conviens. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit de 8000 policiers? Donc, ne nous prononçons pas avant l'enquête. Moi, je refuse les procès médiatiques. Moi, j'ai confiance en la justice. Bon, nous avons un état de droit. Il y a des procédures, il y a un corps de contrôle, l'IGPN. Il y a des enquêtes, elles sont nombreuses. Il n'y a pas de laxisme sur ces attitudes dans la police. Bon. Donc, naturellement, s'ils sont condamnés, il doit y avoir des sanctions impeccables et exemplaires.
Bien, il y a eu beaucoup de manifestations partout dans le monde après la mort de George Floyd. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a rien dit, alors que Justin Trudeau, vous regrettez qu'il n'ait rien dit sur la mort de George Floyd?
Je regrette qu'il ne soit pas prononcé des deux côtés.
Non, mais sur la mort de George Floyd, parce que je vois que Justin Trudeau, par exemple, le Premier ministre canadien, a mis un genou à terre. Vous avez vu ça?
J'ai vu ça.
Est-ce que vous imagineriez Emmanuel Macron mettre un genou à terre?
Non, je ne crois pas que ça soit le rôle d'un président de la République de mettre...
Ni d'un Premier ministre.
De mettre un genou à terre.
Oui.
Mais... il faudrait que le président de la République parle, parce que quand il y a une émotion internationale, et elle est légitime, parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est une abomination, ces images sont insupportables, c'est un assassinat, et ce terme, c'est un policier qui me l'a dit, parce qu'ils sont aussi extrêmement choqués. Il y a cette émotion, je la comprends, et je la partage. Mais attention, par rapport à cette émotion, à la manipulation que certains peuvent conduire, parce que derrière cette émotion, il y a notamment dans notre pays, il y a la tentation de l'extrême gauche de déstabiliser la société, il y a la tentation de porter atteinte à la police républicaine. Notre police, elle est républicaine. Et j'aimerais aussi que le président de la République le dise, parce que qu'est-ce qui se passe quand même? Nos policiers, depuis 2015, qu'est-ce qu'ils ont subi? Les attentats islamistes. Moi, je pense aujourd'hui à Clarissa Jean-Philippe, je pense à Jessica Schneider, je pense à Jean-Baptiste Salvin qui ont été assassinés chez eux parce qu'ils étaient policiers. Je pense à cette magnifique image du 11 janvier 2015 où il y avait ce policier de couleur qui était embrassé et qui avait cette fraternisation entre les citoyens et leur police. Depuis, il y a eu les manifestations, la loi travail, les dérives de certains gilets jaunes. Il y a eu les policiers qui nous ont protégés pendant le Covid. Mmh. Et là, on ne devrait avoir aucune reconnaissance. Je trouve que c'est totalement injuste rapport à ce qui se passe.
Alors, je vais revenir sur les violences, les accusations de violences policières. Est-ce que vous mettriez un genou à terre, vous, à la mémoire de George Floyd?
Non.
Est-ce que ça vous choque, ces images? Tiens, on va regarder une image à Atlanta, aux États-Unis. On voit des policiers danser avec les manifestants. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena. Voilà, ça vous choque ce genre d'image? Est-ce que quand vous voyez les policiers mettre un pied à terre, est-ce que ça vous choque?
Mais bien sûr que non, ça ne me choque pas.
Bon,
il y a cette émotion, elle est légitime, et il est important qu'il y ait ce lien entre la police et les citoyens. Mais attention, parce qu'aujourd'hui je vois le procès qui s'ouvre contre la police républicaine. Et ce procès, il est injuste. Je rappellerai quand même quelques chiffres. Chaque jour, Jean-Jacques Bourdin, 25 policiers sont blessés en mission. 100, c'était les chiffres de 2018, 107 policiers sont agressés. C'est 10 400 par an entre les policiers et les gendarmes. Ces chiffres, ils sont énormes. Il y a cette montée de la violence
d'ailleurs,
dans la société.
Mais 85% des Français ont une bonne image des policiers et les gendarmes.
Raison.
C'est une étude commandée par le ministère de l'Intérieur sur 12 000 personnes qui a été conduite à la fin de l'année 2019. Alors, oui ou non, est-ce que vous niez que des policiers ou des gendarmes puissent être violents?
Il y a eu des actes de violence.
Parce que hier, Christian Jacob a dit « ça n'existe pas la violence policière ».
Ce qu'a dit Christian Jacob, c'est que la violence de l'institution policière n'existe pas. Et il a raison. Parce que
il a dit « la violence policière n'existe pas ».
Les policiers disposent de la force. C'est Max Weber, le sociologue, qui disait « c'est le monopole de la contrainte ou de la violence légitime ». Pour faire respecter la loi, parce que il y a des situations quand un policier rattrape un délinquant et qui se rebelle, qui refuse d'obtempérer, il faut qu'il y ait l'usage de la force. Il faut que cette force, elle soit proportionnée, mesurée. C'est tout l'enjeu des techniques d'interpellation, de formation. Mais il n'y a pas de violence institutionnelle. Après, il peut y avoir des dérapages individuels. Il y en a eu. Il faut les combattre, mais dire que c'est la police qui est violente, non, jamais. La police, elle fait respecter la loi. Qu'est-ce qu'on veut ? Une société où il n'y a plus de police ? Une société où ça soit la loi des communautés, des bandes, de la violence, du plus fort qui domine? C'est pas cette France que je souhaite personnellement. C'est pas ma France.
Bien,
cette
le défenseur des droits dénonce la technique de la NAS, l'encerclement des manifestants, le port de casques de moto intégraux par les policiers ou de cagoules, l'utilisation des grenades de désencerclement, et le défenseur des droits demande le retrait de l'utilisation de ces grenades. Et puis, a beaucoup de réticences sur l'utilisation du LBD. Il faut que la police revoie ses méthodes de...
Ouais, d'abord, vous savez, la police, elle obéit aux ordres.
Oui.
Ça ne vous a pas échappé qu'au moment des Gilets jaunes, les doctrines de maintien de l'ordre ont changé. Il y a eu cette image qui a tellement choqué des Français du pillage de l'Arc de Triomphe. Le ministre de l'Intérieur a donné une autre doctrine. Donc la police respecte cette doctrine. Cette doctrine, elle est sans doute plus dangereuse parce qu'elle demande aux policiers d'aller au contact. On ne peut pas leur demander d'aller au contact et donc forcément il y aura un choc et après leur reprocher. Mais moi j'ai des propositions sur le LBD. Oui. On sait que beaucoup des blessures ont été causées par le LBD. D'abord, il faudrait qu'il ne soit utilisé que par des personnes très qualifiés, et notamment les CRS ou les gendarmes mobiles qui savent l'utiliser. Il faudrait qu'il y ait une habilitation beaucoup plus stricte. Ensuite, moi je propose que sur le LBD, il y ait des caméras systématiques, comme sur les tasers, qui filment le tir du LBD. Comme je souhaite qu'il y ait des caméras piétons systématisées sur tous les policiers. On en a acheté, le ministre de l'Intérieur en a acheté, 10 000, elles ne marchent pas. Parce qu'il n'y a pas, vous savez, elles n'ont qu'une heure d'autonomie.
On filmerait l'utilisation du LBD,
absolument.
Mais on ne filmerait pas, si j'ai bien compris, les fonctionnaires de police, les militaires, les policiers municipaux ou les agents des douanes.
Si,
votre proposition de loi.
Absolument.
Alors, expliquez-moi cette proposition de loi.
Je l'ai ici, et vous voyez le titre, proposition de loi visant à rendre non identifiables les forces de l'ordre. Le fait de dire que je veux interdire de filmer les policiers en action est une fake news. C'est une contre-vérité d'ailleurs développé par des journaux sérieux comme Le Monde, qui a titré que je voulais interdire de filmer les policiers. C'est faux, c'est contraire, c'est totalement
faux. Qu'est-ce que vous voulez interdire ?
Je veux simplement que l'image du policier soit floutée, qu'on ne puisse pas l'identifier, le reconnaître, parce que ces policiers, ils sont menacés. On les suit quelquefois jusque chez eux.
Les insultes,
leur famille. J'évoquais la mémoire de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, assassinés chez eux devant leur enfant de 3 ans. Oui. On veut cette société de violence. Moi, je demande qu'on protège l'identité des policiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'enquête. Une image, elle est floutée, mais un juge, un procureur peut naturellement y avoir accès. Il y a déjà des policiers qui sont floutés, ceux du RAID, sur du GIGN. Ça pose aucun problème. C'était ça, ma proposition de loi. Elle, d'ailleurs, répondait à une demande des policiers.
Et où en est-on, d'ailleurs? Le gouvernement ne la soutient pas, me semble-t-il. Je poserai la question au ministre de l'Intérieur demain.
Vous savez, elle m'a valu des dizaines de menaces de mort. C'est très étonnant de la part de ces gens qui prônent la non-violence, de menacer de mort les forces de l'ordre ou ceux qui veulent les défendre. J'y trouve une forme de paradoxe. La violence, vous savez, elle est sans doute pas du côté où l'on croit. Parce que j'évoquais ces chiffres tout à l'heure, ces 30 policiers blessés par jour. Vous savez, ce fameux rapport de l'IGPN, vous le citiez tout à l'heure, il y a eu 107 personnes blessées gravement par les policiers en 2019. Plus de 9 jours d'interruption temporaire de travail. 107 personnes. Ça veut dire que c'est 3 jours de blessures des policiers. Voilà. C'est ça la réalité. Donc on est dans une société de plus en plus violente. C'est les policiers qui sont en première ligne. Et on a besoin de les défendre. Il faut qu'ils aient plus de moyens. Deuxième proposition pour la déontologie aussi. Oui. Plus de formation. Vous savez, on réduit les heures de formation. Un policier a 12 heures de formation par an pour les techniques d'interpellation et pour le tir. Et ça diminue d'année en année. Il faut augmenter et la qualité de la formation initiale. On a baissé sur la qualité du recrutement, il faut le dire, et sur la formation continue. Ça, ce sont de vraies réponses. Ensuite, sur les grenades, pourquoi pas, il faut regarder, mais pour avoir des techniques qui soient les moins dangereuses possibles, bien sûr, mais ne faisons pas un amalgame extraordinairement dangereux. On a besoin de notre police, elle est républicaine, elle nous protège, et tout ça est aussi le fait qu'on n'a pas assez de moyens pour cette police. On a légèrement augmenté les effectifs, c'est bien, mais on a payé cette augmentation par une diminution des matériels, des moyens de fonctionnement, et ça c'est pas normal.
Merci Éric Ciotti d'être venu nous voir ce matin. Demain donc, le ministre de l'Intérieur sera là pour répondre à toutes ces questions autour des forces de l'ordre entre autres. Il est 8h54.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal,
Olivier Truchot.
C'est Alain Marchal, tout de suite les GG, les grandes gueules avec le coup d'envoi de notre opération. Quel challenger pour 2022? Quelle personnalité pourrait venir troubler la campagne des élections présidentielles? Jean-Marie Bigard, Éric Zemmour, Cyril Hanouna, le général Pierre de Villiers, Élise Lucet, Michel Onfray, le professeur Didier Raoult. Ce sera à vous d'en parler et surtout à vous de voter.
RMC, 9h midi,
les grandes gueules.